Le Capital, livre premier, première section, chapitre grand 3, grand 2, moyens de circulation. Petit A, la métamorphose des marchandises. L'échange des marchandises ne peut, comme on l'a vu, s'effectuer qu'en remplissant des conditions contradictoires, exclusives les unes des autres. Son développement, qui fait apparaître la marchandise comme chose à double face, valeur d'usage et valeur d'échange, ne fait pas disparaître ses contradictions, mais crée la forme dans laquelle elles peuvent se mouvoir. C'est d'ailleurs la seule méthode pour résoudre des contradictions réelles. C'est par exemple une contradiction qu'un corps tombe constamment sur un autre et cependant le fuit constamment. L'ellipse est une des formes de mouvement par lesquelles cette contradiction se réalise et se résout à la fois. L'échange fait passer les marchandises des mains dans lesquelles elles sont des non-valeurs d'usage aux mains dans lesquelles elles servent de valeurs d'usage. Le produit d'un travail utile remplace le produit d'un autre travail utile. C'est la circulation sociale des matières. Une fois arrivée au lieu où elle sert de valeur d'usage, la marchandise tombe de la sphère des échanges dans la sphère de consommation. Mais cette circulation matérielle ne s'accomplit que par une série de changements de forme ou une métamorphose de la marchandise que nous avons maintenant à étudier. Ce côté morphologique du mouvement est un peu difficile à saisir, puisque tout changement de forme d'une marchandise s'effectue par l'échange de deux marchandises. Une marchandise dépouille, par exemple, sa forme usuelle pour revêtir sa forme monnaie. Comment cela arrive-t-il? Par son échange avec l'or. Simple échange de deux marchandises. Voilà le fait palpable. Mais il faut y regarder de plus près. L'or occupe un pôle. Tous les articles utiles, le pôle opposé. Des deux côtés, il y a marchandise, unité de valeur d'usage et de valeur d'échange. Mais cette unité de contraire se représente inversement aux deux extrêmes. La forme usuelle de la marchandise en est la forme réelle, tandis que sa valeur d'échange n'est exprimée qu'idéalement, en or imaginé, par son prix. La forme naturelle, métallique de l'or, est au contraire sa forme d'échangeabilité générale, sa forme valeur, tandis que sa valeur d'usage n'est exprimé qu'idéalement dans la série des marchandises qui figurent comme ses équivalents. Or, quand une marchandise s'échange contre de l'or, elle change du même coup sa forme usuelle en forme valeur. Quand l'or s'échange contre une marchandise, il change de même sa forme valeur en forme usuelle. Après ces remarques préliminaires, transportons-nous maintenant sur le théâtre de l'action, le marché. Nous y accompagnons un échangiste quelconque, notre vieille connaissance, le tisserand, par exemple. Sa marchandise, 20 mètres de toile, a un prix déterminé, soit de 2 livres sterling. Il l'échange contre 2 livres sterling, et puis, en homme de vieille roche qu'il est, échange les 2 livres sterling contre une Bible d'un prix égal. La toile qui, pour lui, n'est que marchandise porte-valeur, est aliénée contre l'or. Et cette figure de sa valeur est aliénée de nouveau contre une autre marchandise, la Bible. Mais celle-ci entre dans la maisonnette du tisserand pour y servir de valeur d'usage, et y porter réconfort à des âmes modestes. L'échange ne s'accomplit donc pas sans donner lieu à deux métamorphoses opposées et qui se complètent l'une l'autre, transformation de la marchandise en argent et sa retransformation d'argent en marchandise. Note de bas de page, ouvrez les guillemets.
Τέχτε του, προς Άνταμ ίσο έρθε πεν δέλτα ηρακλητός, χε πειρά απαντών, ως περ χρήζω οι χρήματα χε χρήματον χρυσός.
Fermez les guillemets. F. La Salle, La philosophie d'Héraclite l'obscur, Berlin, 1858, tome 1, page 222. Ouvrez les guillemets. Le feu, comme dit Héraclite, se convertit en tout, et tout se convertit en feu, de même que les marchandises en or, et l'or en marchandises. Fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, l'échange ne s'accomplit donc pas sans donner lieu à deux métamorphoses opposées et qui se complètent l'une l'autre. Transformation de la marchandise en argent et sa retransformation d'argent en marchandise. Ces deux métamorphoses de la marchandise présentent à la fois, au point de vue de son possesseur, deux actes. Vente, échange de la marchandise contre l'argent, achat, échange de l'argent contre la marchandise. Et l'ensemble de ces deux actes, vendre pour acheter. Ce qui résulte pour le tisserand de cette affaire, c'est qu'il possède maintenant une Bible, et non de la toile, à la place de sa première marchandise, une autre, d'une valeur égale, mais d'une utilité différente. Il se procure de la même manière ses autres moyens de subsistance et de production. De son point de vue, ce mouvement de vente et d'achat ne fait en dernier lieu que remplacer une marchandise par une autre ou qu'échanger des produits. L'échange de la marchandise implique donc les changements de forme que voici. Marchandise tirer argent, tirer marchandise. Grand M, tirer grand A, tirer grand M. Considéré sous son aspect purement matériel, le mouvement aboutit à grand M, tirer grand M. Échange de marchandises contre marchandises. Permutation de matière du travail social. Tel est le résultat dans lequel vient s'éteindre le phénomène. Nous aurons maintenant à examiner à part chacune des deux métamorphoses successives que la marchandise doit traverser. Grand M tiré grand A, première métamorphose de la marchandise ou vente. La valeur de la marchandise saute de son propre corps dans celui de l'or. C'est son saut périlleux. S'il manque, elle ne s'emportera pas plus mal, mais son possesseur sera frustré. Tout en multipliant ses besoins, la division sociale du travail a du même coup rétréci sa capacité productive. C'est précisément pourquoi son produit ne lui sert que de valeur d'échange ou d'équivalent général. Toutefois, il n'acquiert cette forme qu'en se convertissant en argent, et l'argent se trouve dans la poche d'autrui. Pour le tirer de là, il faut avant tout que la marchandise soit valeur d'usage pour l'acheteur, que le travail dépensé en elle ait été sous une forme socialement utile, ou qu'il soit légitimé comme branche de la division sociale du travail. Mais la division du travail crée un organisme de production spontané dont les fils ont été tissés et se tissent encore à l'insu des producteurs échangistes. Il se peut que la marchandise provienne d'un nouveau genre de travail destiné à satisfaire, ou même à provoquer des besoins nouveaux. Entrelacés, hier encore, dans les nombreuses fonctions dont se compose un seul métier, un travail parcellaire peut aujourd'hui se détacher de cet ensemble, s'isoler et envoyer au marché son produit partiel à titre de marchandise complète, sans que rien garantisse que les circonstances soient mûres pour ce fractionnement. Un produit satisfait aujourd'hui un besoin social. Demain, il sera peut-être remplacé, en tout ou en partie, par un produit rival. Lors même que le travail, comme celui de notre tisserand, est un membre patenté de la division sociale du travail, la valeur d'usage de ces 20 mètres de toile n'est pas pour cela précisément garantie. Si le besoin de toile dans la société, et ce besoin à sa mesure comme toute autre chose, est déjà rassasié par des tisserands rivaux, le produit de notre ami devient superflu et conséquemment inutile. Supposons cependant que la valeur utile de son produit soit constatée et que l'argent soit attiré par la marchandise. Combien d'argent? Telle est maintenant la question. Il est vrai que la réponse se trouve déjà par anticipation dans le prix de la marchandise, l'exposant de sa grandeur de valeur. Nous faisons abstraction du côté faible du vendeur, de fautes de calcul plus ou moins intentionnelles, lesquelles sont sans pitié corrigées sur le marché. Supposons qu'il n'ait dépensé que le temps socialement nécessaire pour faire son produit. Le prix de sa marchandise n'est donc que le nom monétaire du quantum de travail qu'exige en moyenne tout article de la même sorte. Mais à l'insu, et sans la permission de notre tisserand, les vieux procédés employés pour le tissage ont été mis sans dessus dessous. Le temps de travail socialement nécessaire hier pour la production d'un mètre de toile ne l'est plus aujourd'hui. Comme l'homme aux écus s'empresse de le lui démontrer par le tarif de ses concurrents. Pour son malheur, il y a beaucoup de tisserands au monde. Supposons enfin que chaque morceau de toile qui se trouve sur le marché n'ait coûté que le temps de travail socialement nécessaire. Néanmoins, la somme totale de ces morceaux peut représenter du travail dépensé en pure perte. Si l'estomac du marché ne peut pas absorber toute la toile au prix normal de 2 shillings par mètre, cela prouve qu'une trop grande partie du travail social a été dépensée sous forme de tissage. L'effet est le même que si chaque tisserand en particulier avait employé pour son produit individuel plus que le travail nécessaire socialement. C'est le cas de dire ici, selon le proverbe allemand, ouvrez les guillemets, pris ensemble, ensemble pendu, fermez les guillemets. Toute la toile sur le marché ne constitue qu'un seul article de commerce dont chaque morceau n'est qu'une partie aliquote. Comme on le voit, la marchandise aime l'argent. Mais, ouvrez les guillemets, the course of true love runs never smooth. Fermez les guillemets. Note de bas de page, ouvrez les guillemets. Le véritable amour est toujours chaoté dans sa course. Fermez les guillemets. Shakespeare entre parenthèses. Fin de la note de bas de page. Donc, comme on le voit, la marchandise aime l'argent. Mais, ouvrez les guillemets. The course of true love runs never smooth. Fermez les guillemets. L'organisme social de production, dont les membres disjoints, membra disjecta, naissent de la division du travail, porte l'empreinte de la spontanéité et du hasard, que l'on considère ou les fonctions mêmes de ses membres ou leur rapport de proportionnalité. Aussi, nos échangistes découvrent-ils que la même division du travail qui fait d'eux des producteurs privés indépendants rend la marche de la production sociale et les rapports qu'elle crée complètement indépendants de leur volonté. De sorte que l'indépendance des personnes les unes vis-à-vis des autres trouve son complément obligé en un système de dépendance réciproque imposé par les choses. La division du travail transforme le produit du travail en marchandise et nécessite par cela même sa transformation en argent. Elle rend en même temps la réussite de cette transsubstantiation accidentelle. Ici, cependant, nous avons à considérer le phénomène dans son intégrité, et nous devons donc supposer que sa marche est normale. Du reste, si la marchandise n'est pas absolument invendable, son changement de forme a toujours lieu, quel que soit son prix de vente. Ainsi, le phénomène qui, dans l'échange, saute aux yeux, c'est que, marchandise et or, 20 mètres de toile par exemple et 2 livres sterling, changent de main ou de place. Mais avec quoi s'échange la marchandise? Avec sa forme de valeur d'échange ou d'équivalent général. Et avec quoi l'or? Avec une forme particulière de sa valeur d'usage. Pourquoi l'or se présente-t-il comme monnaie à la toile? Parce que le nom monétaire de la toile, son prix de 2 livres sterling, la rapporte déjà à l'or en tant que monnaie. La marchandise se dépouille de sa forme primitive en s'aliénant, c'est-à-dire au moment où sa valeur d'usage attire réellement l'or qui n'est que représenté dans son prix. La réalisation du prix ou de la forme valeur purement idéale de la marchandise est en même temps la réalisation inverse de la valeur d'usage purement idéale de la monnaie. La transformation de la marchandise en argent est la transformation simultanée de l'argent en marchandise. La même et unique transaction est bipolaire. Vue de l'un des pôles, celui du possesseur de marchandises, elle est vente. Vue du pôle opposé, celui du possesseur d'or, elle est achat. Ou bien, vente est achat. Grand M tiré grand A est, en même temps, grand A tiré grand M. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Toute vente est achat. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Docteur Kenney, dialogue sur le commerce et les travaux des artisans. Physiocrate, édition d'Air, première partie, Paris, 1846, page 170. Fermez la parenthèse. Ou, comme le dit le même auteur dans ses Maximes générales, vendre est acheter. Fin de la note de bas de page. Donc, la même et unique transaction est bipolaire. Vue de l'un des pôles, celui du possesseur de marchandises, elle est vente. Vue du pôle opposé, celui du possesseur d'or, elle est achat. Ou bien, vente est achat. Grand M tiré grand A est en même temps grand A tiré grand M. Jusqu'ici, nous ne connaissons d'autre rapport économique entre les hommes que celui d'échangiste, rapport dans lequel ils ne s'approprient le produit d'un travail étranger qu'en livrant le leur. Si donc l'un des échangistes se présente à l'autre comme possesseur de monnaie, il faut de deux choses l'une. Ou le produit de son travail possède par nature la forme monnaie, c'est-à-dire que son produit à lui est or, argent, etc., en un mot, matière de la monnaie. ou sa marchandise a déjà changé de peau. Elle a été vendue et par cela même, elle a dépouillé sa forme primitive. Pour fonctionner en qualité de monnaie, l'or doit naturellement se présenter sur le marché en un point quelconque. Il entre dans le marché à la source même de sa production, c'est-à-dire là où il se troque comme produit immédiat du travail contre un autre produit de même valeur. Mais, à partir de cet instant, il représente toujours un prix de marchandise réalisé. Note de bas de page, ouvrez les guillemets, le prix d'une marchandise ne pouvant être payé que par le prix d'une autre marchandise. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Mercier de la Rivière, l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Physiocrate, édition d'Air, deuxième partie, page 554, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, mais à partir de cet instant, il représente toujours un prix de marchandise réalisé. Indépendamment du troc de l'or contre des marchandises à sa source de production, l'or est entre les mains de chaque producteur échangiste le produit d'une vente ou de la première métamorphose de sa marchandise, grand M tiré grand A. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Pour avoir cet argent, il faut avoir vendu. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Loc cite. Page 545. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, indépendamment du troc de l'or contre des marchandises à sa source de production, l'or est entre les mains de chaque producteur échangiste le produit d'une vente ou de la première métamorphose de sa marchandise, grand M tiré grand A. L'or est devenu monnaie idéale ou mesure des valeurs parce que les marchandises exprimaient leur valeur en lui et en faisaient ainsi leur figure valeur imaginée, opposée à leur forme naturelle de produits utiles. Il devient monnaie réelle par l'aliénation universelle des marchandises. Ce mouvement les convertit toutes en or et fait par cela même de l'or leur figure métamorphosée, non plus en imagination, mais en réalité. La dernière trace de leur forme usuelle et des travaux concrets dont elles tirent leur origine, ayant ainsi disparu, il ne reste plus que des échantillons uniformes et indistincts du même travail social. Avoir une pièce de monnaie, on ne saurait dire quel article a été converti en elle. La monnaie peut donc être de la boue, quoique la boue ne soit pas monnaie. Supposons maintenant que les deux pièces d'or contre lesquelles notre tisserand a aliéné sa marchandise proviennent de la métamorphose d'un quart de froment. La vente de la toile, grand M tiré grand A, est en même temps son achat, grand A tiré grand M. En tant que la toile est vendue, cette marchandise commence un mouvement qui finit par son contraire, l'achat de la Bible. En tant que la toile est achetée, elle finit un mouvement qui a commencé par son contraire, la vente du froment. Grand M tiré grand A, toile tiré argent entre parenthèses, cette première phase de grand M tiré grand A tiré grand M, toile tiré argent tiré Bible entre parenthèses, est en même temps grand A tiré grand M, argent tiré toile entre parenthèses, la dernière phase d'un autre mouvement grand M tiré grand A tiré grand M, froment tiré argent tiré toile entre parenthèses. la première métamorphose d'une marchandise, son passage de la forme marchandise à la forme argent, est toujours seconde métamorphose, tout opposée d'une autre marchandise, son retour de la forme argent à la forme marchandise. Note de bas de page. Ici, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le producteur d'or ou d'argent fait exception. Il vend son produit sans avoir préalablement acheté. Fin de la note de bas de page. Donc, la première métamorphose d'une marchandise, son passage à la forme marchandise à la forme argent, est toujours seconde métamorphose toute opposée d'une autre marchandise. Son retour de la forme argent à la forme marchandise. Grand A tiré grand M. Métamorphose deuxième et finale, achat. L'argent est la marchandise qui a pour caractère l'aliénabilité absolue parce qu'il est le produit de l'aliénation universelle de toutes les autres marchandises. Il lie tous les prix à rebours et se mire ainsi dans les corps de tous les produits comme dans la matière qui se donne à lui pour qu'il devienne valeur d'usage lui-même. Les prix qui sont pour ainsi dire les œillades amoureuses que lui lancent les marchandises indiquent la limite de sa faculté de conversion, c'est-à-dire sa propre quantité. La marchandise, disparaissant dans l'acte de sa conversion en argent, l'argent dont dispose un particulier ne laisse entrevoir ni comment il est tombé sous sa main, ni quelle chose a été transformée en lui. Impossible de sentir, non olet, d'où il tire son origine. Si, d'un côté, il représente des marchandises vendues, il représente de l'autre des marchandises à acheter. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Si l'argent représente, dans nos mains, les choses que nous pouvons désirer d'acheter, il y représente aussi les choses que nous avons rendues pour cet argent. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Mercier de la Rivière, L'Occite, page 586. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, si d'un côté, il représente des marchandises vendues, il représente, de l'autre, des marchandises à acheter. Grand A tiré grand M, l'achat, est en même temps vente, grand M tiré grand A. La dernière métamorphose d'une marchandise, la première d'une autre. Pour notre tisserand, la carrière de sa marchandise se termine à la Bible, en laquelle il a converti ses 2 livres sterling. Mais le vendeur de la Bible dépense cette somme en eau-de-vie. Grand A tiré grand M. La dernière phase de grand M tiré grand A tiré grand M, toile tiré argent tiré Bible entre parenthèses, est en même temps grand M tiré grand A, la première phase de grand M tiré grand A tiré grand M, Bible tiré argent tiré eau de vie entre parenthèses. La division sociale du travail restreint chaque producteur échangiste à la confection d'un article spécial qu'il vend souvent en gros. De l'autre côté, ses besoins divers et toujours renaissants le forcent d'employer l'argent ainsi obtenu à des achats plus ou moins nombreux. Une seule vente devient le point de départ d'achats divers. La métamorphose finale d'une marchandise forme ainsi une somme de métamorphoses premières d'autres marchandises. Examinons maintenant la métamorphose complète. L'ensemble des deux mouvements, grand M tiré grand A et grand A tiré grand M. Ils s'accomplissent par deux transactions inverses de l'échangiste, la vente et l'achat, qui lui impriment le double caractère de vendeur et d'acheteur. De même que, dans chaque changement de forme de la marchandise, ces deux formes, marchandise et argent, existent simultanément, quoique à des pôles opposés, de même, dans chaque transaction de vente et d'achat, les deux formes de l'échangiste, vendeur et acheteur, se font face. De même qu'une marchandise, la toile par exemple, subit alternativement deux transformations inverses, de marchandise devient argent et d'argent marchandise, de même, son possesseur joue alternativement sur le marché les rôles de vendeur et d'acheteur. Ces caractères, au lieu d'être des attributs fixes, passent donc tour à tour d'un échangiste à l'autre. La métamorphose complète d'une marchandise suppose, dans sa forme la plus simple, quatre termes. Marchandise et argent, possesseur de marchandise et possesseur d'argent. Voilà les deux extrêmes qui se font face deux fois. Cependant, un des échangistes intervient d'abord dans son rôle de vendeur, possesseur de marchandises, et ensuite dans son rôle d'acheteur, possesseur d'argent. Il n'y a donc que trois personae dramatis. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Il y a donc quatre termes et trois contractants, dont l'un intervient deux fois. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Le trône, l'oxyte, page 908, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, cependant, un des échangistes intervient d'abord dans son rôle de vendeur, possesseur de marchandises, et ensuite dans son rôle d'acheteur, possesseur d'argent. Il n'y a donc que trois persona dramatis. Comme terme final de la première métamorphose, l'argent est en même temps le point de départ de la seconde. De même, le vendeur du premier acte devient l'acheteur dans le second, où un troisième possesseur de marchandises se présente à lui comme vendeur. Les deux mouvements inverses de la métamorphose d'une marchandise décrivent un cercle, forme marchandise, effacement de cette forme dans l'argent, retour à la forme marchandise. Ce cercle commence et finit par la forme marchandise. Au point de départ, elle s'attache à un produit qui est non valeur d'usage pour son possesseur, au point de retour, à un autre produit qui lui sert de valeur d'usage. Remarquons encore que l'argent aussi joue là un double rôle. Dans la première métamorphose, il se pose en face de la marchandise comme la figure de sa valeur qui possède ailleurs, dans la poche d'autrui, une réalité dure et sonnante. Dès que la marchandise est changée en chrysalide d'argent, l'argent cesse d'être un cristal solide. Il n'est plus que la forme transitoire de la marchandise, sa forme équivalente qui doit s'évanouir et se convertir en valeur d'usage. Les deux métamorphoses qui constituent le mouvement circulaire d'une marchandise forment simultanément des métamorphoses partielles et inverses de deux autres marchandises. La première métamorphose de la toile, par exemple, toile-argent entre parenthèses, est la seconde et la dernière métamorphose du froment, froment-argent-toile entre parenthèses. La dernière métamorphose de la toile, argent-bible entre parenthèses, et la première métamorphose de la Bible, bible-argent entre parenthèses. Le cercle que forme la série des métamorphoses de chaque marchandise s'engraine ainsi dans les cercles que forment les autres. L'ensemble de tous ces cercles constitue la circulation des marchandises. La circulation des marchandises se distingue essentiellement de l'échange immédiat des produits. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé. Le tisserand a bien échangé sa toile contre une Bible, sa propre marchandise contre une autre. Mais ce phénomène n'est vrai que pour lui. Le vendeur de Bible, qui préfère le chaud au froid, ne pensait point échanger sa Bible contre de la toile. Le tisserand n'a peut-être pas le moindre soupçon que c'était du froment qui s'est échangé contre sa toile, etc. La marchandise de grand B est substituée à la marchandise de grand A. Mais grand A et grand B n'échangent point leurs marchandises réciproquement. Il se peut bien que grand A et grand B achètent l'un de l'autre. Mais c'est un cas particulier et point du tout un rapport nécessairement donné par les conditions générales de la circulation. La circulation élargit au contraire la sphère de la permutation matérielle du travail social en émancipant les producteurs des limites locales et individuelles inséparables de l'échange immédiat de leurs produits. De l'autre côté, ce développement même donne lieu à un ensemble de rapports sociaux indépendants des agents de la circulation et qui échappent à leur contrôle. Par exemple, si le tisserand peut vendre sa toile, c'est que le paysan a vendu du froment. Si Pritchard vend sa Bible, c'est que le tisserand a vendu sa toile. Le distillateur ne vend son eau brûlée que parce que l'autre a déjà vendu l'eau de la vie éternelle, et ainsi de suite. La circulation ne s'éteint pas non plus, comme l'échange immédiat, dans le changement de place ou de main des produits. L'argent ne disparaît point, bien qu'il s'élimine à la fin de chaque série de métamorphoses d'une marchandise. Il se précipite toujours sur le point de la circulation qui a été évacué par la marchandise. Dans la métamorphose complète de la toile, par exemple, toile-argent-bible, c'est la toile qui sort la première de la circulation. L'argent la remplace. La Bible sort après elle. L'argent la remplace encore. Et ainsi de suite. Or, quand la marchandise d'un échangiste remplace celle d'un autre, l'argent reste toujours au doigt d'un troisième. La circulation sue l'argent par tous les pores. Rien de plus niais que le dogme d'après lequel la circulation implique nécessairement l'équilibre des achats et des ventes, vu que toute vente est achat et réciproquement. Si cela veut dire que le nombre des ventes réellement effectuées est égal au même nombre d'achats, ce n'est qu'une plate tautologie. Mais ce qu'on prétend prouver, c'est que le vendeur amène au marché son propre acheteur. Vente et achat sont un acte identique comme rapport réciproque de deux personnes polariquement opposées, du possesseur de la marchandise et du possesseur de l'argent. Ils forment deux actes polariquement opposés, comme action de la même personne. L'identité de vente et d'achat entraîne donc comme conséquence que la marchandise devient inutile si, une fois jetée dans la cornue alchimique de la circulation, elle n'en sort pas argent. Si l'un n'achète pas, l'autre ne peut vendre. Cette identité suppose de plus que le succès de la transaction forme un point d'arrêt, un intermède dans la vie de la marchandise. Intermède qui peut durer plus ou moins longtemps. La première métamorphose d'une marchandise étant à la fois vente et achat, et par cela même séparable de sa métamorphose complémentaire. L'acheteur a la marchandise, le vendeur a l'argent, c'est-à-dire une marchandise douée d'une forme qui la rend toujours la bienvenue au marché, à quelque moment qu'elle y réapparaisse. Personne ne peut vendre sans qu'un autre achète. Mais personne n'a besoin d'acheter immédiatement parce qu'il a vendu. La circulation fait sauter les barrières par lesquelles le temps, l'espace et les relations d'individu à individu rétrécissent le troc des produits. Mais comment? Dans le commerce en troc, personne ne peut aliéner son produit sans que simultanément une autre personne aliène le sien. L'identité immédiate de ces deux actes, la circulation la scinde en y introduisant l'antithèse de la vente et de l'achat. Après avoir vendu, je ne suis forcé d'acheter ni au même lieu, ni au même temps, ni de la même personne à laquelle j'ai vendu. Il est vrai que l'achat est le complément obligé de la vente, mais il n'est pas moins vrai que leur unité est l'unité de contraire. Si la séparation des deux phases complémentaires l'une de l'autre de la métamorphose des marchandises se prolonge, si la scission entre la vente et l'achat s'accentue, leur liaison intime s'affirme par une crise. Les contradictions que recèle la marchandise, de valeur usuelle et valeur échangeable, de travail privé qui doit à la fois se représenter comme travail social, de travail concret qui ne vaut que comme travail abstrait, ces contradictions immanentes à la nature de la marchandise acquièrent dans la circulation leur forme de mouvement. Ces formes impliquent la possibilité, mais aussi seulement la possibilité, des crises. Pour que cette possibilité devienne réalité, il faut tout un ensemble de circonstances qui, au point de vue de la circulation simple des marchandises, n'existent pas encore. Note de bas de page. Voir mes remarques sur James Mill. L'Occit, page 74-76. Deux points principaux caractérisent à ce sujet la méthode apologétique des économistes. D'abord, ils identifient la circulation des marchandises et l'échange immédiat des produits en faisant tout simplement abstraction de leurs différences. En second lieu, ils essaient d'effacer les contradictions de la production capitaliste en réduisant les rapports de ses agents aux rapports simples qui résultent de la circulation des marchandises. Or, circulation des marchandises et production des marchandises sont des phénomènes qui appartiennent aux modes de production les plus différents, quoique dans une mesure et une portée qui ne sont pas les mêmes. On ne sait donc encore rien de la différence spécifique des modes de production. Et on ne peut les juger si l'on ne connaît que les catégories abstraites de la circulation des marchandises qui leur sont communes. Il n'est pas de science où, avec des lieux communs élémentaires, l'on fasse autant l'important que dans l'économie politique. Se fait fort de juger les crises parce qu'il sait que la marchandise est un produit. Fin de la note de bas de page. Donc, les contradictions que recèle la marchandise, de valeur usuelle et valeur échangeable, de travail privé qui doit à la fois se représenter comme travail social, de travail concret qui ne vaut que comme travail abstrait, ces contradictions immanentes à la nature de la marchandise acquièrent dans la circulation leur forme de mouvement. Ces formes impliquent la possibilité, mais aussi seulement la possibilité, des crises. Pour que cette possibilité devienne réalité, il faut tout un ensemble de circonstances qui, au point de vue de la circulation simple des marchandises, n'existent pas encore.